Dimanche de Pâques, dimanche de joie, de victoire, et bien sûr nos pensées vont vers le sacrifice de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, sacrifice qu'il a fait pour les péchés de l'humanité, pour nos péchés, et nos pensées vont bien sûr vers sa résurrection à l'aube du premier jour de la semaine. Et j'aimerais attirer notre attention ce matin sur l'ambition spirituelle d'un homme. L'ambition spirituelle d'un homme qui nous dit ce qui est pour lui le bien suprême. Il s'agit de l'apôtre Paul qui dit ceci dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Je lis ce passage dans la version français courant. Et maintenant, mes frères, soyez joyeux d'être unis au Seigneur. Il ne m'est pas pénible de vous répéter ce que j'ai déjà écrit, et pour vous, cela vaut mieux. Gardez-vous de ceux qui commettent le mal, ces chiens, ces partisans d'une fausse circoncision. En fait, c'est nous qui avons la vraie circoncision, car nous servons Dieu par son esprit. Nous sommes fiers d'être à Jésus-Christ. Et nous ne fondons pas notre assurance sur des privilèges humains. Pourtant, je pourrais aussi me réclamer de tels privilèges. J'aurais plus de raisons de le faire que qui que soit d'autre. J'ai été circoncis 8e jour après ma naissance. Je suis israélite de naissance de la tribu de Benjamin, hébreu, descendant d'hébreu. Je pratiquais la loi juive en bon pharisien, et j'étais si fanatique que je persécutais l'Église. En ce qui concerne la vie juste prescrite par la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause du Christ. Et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême, connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets, afin de gagner Christ et d'être parfaitement uni à lui. Je n'ai plus la prétention d'être juste grâce à ma pratique de la loi. C'est par la foi au Christ que je le suis, grâce à cette possibilité d'être juste, créée par Dieu et qu'il accorde en réponse à la foi. Tout ce que je désire, marquez bien cette phrase de l'apôtre Paul, tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir que je serai moi aussi relevé d'entre les morts. Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection. Voilà donc l'ambition spirituelle de cet homme, l'apôtre Paul. Ce qu'il désire par-dessus tout dans sa vie et dans la vie de tout chrétien, puisqu'il écrit cela à des chrétiens, connaître le Christ vivant, connaître la puissance qui est associée à sa résurrection. Voilà ce qui est pour lui le bien suprême, tout ce qui compte dans sa vie. Vous savez, frères et sœurs, chers amis, certains ont essayé et essayent encore de nos jours de nier la résurrection de Jésus-Christ. Pourtant, les preuves sont nombreuses. Les preuves que le Nouveau Testament nous donne sont tellement nombreuses. Nous avons déjà entendu quelques-unes ce matin. Les paroles de l'ange aux femmes le dimanche matin quand elles sont allées au tombeau. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant, celui qui est ressuscité ? Les apparitions multiples de Jésus à ses disciples pendant 40 jours. Thomas qui a pu voir et toucher les mains et les pieds de Jésus ressuscité. Les témoins de sa résurrection qui se comptaient par centaines, dit l'apôtre Paul. Mais surtout le changement radical opéré dans la vie des disciples et des apôtres, n'est-ce pas, qui n'avaient plus peur de rien, même pas de la mort. La plupart d'entre eux ont été tués, exécutés. D'autres pensent que ça ne changerait rien si Jésus n'était pas ressuscité. Si ces ossements étaient découverts quelque part dans les collines environnantes de Jérusalem, ça ne poserait aucun problème. Cela ne changerait rien, ni à son enseignement qu'il nous a laissé, ni au fait qu'il est mort pour nos péchés. Cela ne nous empêcherait pas de croire en lui. Mais dans ce cas, si Christ n'est pas ressuscité des morts, quel bénéfice retirions-nous de savoir que nos péchés sont pardonnés? Pourquoi faire? La réponse de l'apôtre Paul à cette question est très claire. Dans sa lettre, première lettre aux Corinthiens, il dit « Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Elle ne sert à rien. Nous sommes encore dans nos péchés et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Si Christ n'est pas ressuscité, le christianisme ne sert à rien. » Pour l'apôtre Paul, les apôtres et tous les auteurs du Nouveau Testament, la résurrection de Jésus-Christ est une vérité capitale pour le christianisme, une doctrine essentielle, tellement fondamentale que le premier acte de la vie chrétienne, de la foi chrétienne, le baptême prescrit par Jésus-Christ lui-même, est une annonce de cette vérité-là, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est sur cette vérité qui est assis l'évangile de Jésus-Christ. C'est sur cette vérité que le christianisme a été bâti dès ce jour mémorable où Jésus-Christ est sorti vivant, vainqueur du tombeau. Si Jésus n'est pas ressuscité des morts, dans ce cas-là, ce que l'apôtre Paul dit dans ce passage qui sert notre méditation ce matin n'a aucun sens. Aucun sens, car il nous serait impossible de connaître le Christ, comme il le dit, c'est-à-dire de vivre une relation avec lui, puisqu'il est mort. Quelle relation pouvons-nous avoir avec quelqu'un qui est mort? Nous pourrions lire toute la littérature du monde qui parle de Jésus, n'est-ce pas? Mais nous ne pourrions ni avoir une relation avec lui, ni continuer de l'adorer, de chanter ces beaux cantiques que nous chantons chaque dimanche, car s'il est mort, cela ne servirait absolument à rien. Si Jésus n'est pas ressuscité des morts, cela n'a aucun sens de parler de la puissance de sa résurrection. Où est-elle s'il est mort? Car s'il a été vaincu par la mort, si la mort a été plus forte que lui, cela veut dire qu'il était un simple homme, comme vous et moi, un simple homme sans aucune puissance face à ce grand ennemi de l'homme qui est la mort. Certes, son enseignement pourrait avoir une certaine influence morale, bénéfique peut-être sur nos vies, mais sans plus. Le christianisme serait une philosophie comme toutes les autres, une religion comme toutes les autres. Or, la résurrection de Jésus-Christ est attestée par de nombreux témoins, nous dit l'apôtre Paul. La résurrection de Jésus-Christ est une vérité fondamentale pour le christianisme. Tout l'évangile est basé sur la mort et la résurrection de Jésus. Le christianisme est la seule religion, je mets religion entre guillemets, parce que le christianisme est plutôt une relation avec Dieu, un sauvetage. L'évangile est la seule religion qui permet aux hommes d'avoir une relation avec un sauveur qui est vivant. Un sauveur qui peut être connu. Un sauveur qui peut inspirer nos vies et les guider. Un sauveur qui peut transformer à sa ressemblance et fortifier ceux qui se confient en lui, ceux qui croient en lui et qui vivent dans une relation quotidienne de communion avec lui. Ceci dit, revenons à notre passage de base. Revenons à l'ambition spirituelle de l'apôtre Paul, à cette belle ambition qu'il avait pour lui-même et pour tous les disciples du Christ, tous les chrétiens, ambition qu'il nourrissait dans sa vie, pour sa vie spirituelle à lui, et pour nous aujourd'hui aussi, ambition qu'il considérait comme étant le bien suprême. Je pense qu'on peut dire qu'elle est composée de deux parties, connaître le Christ vivant et connaître la puissance de sa résurrection, connaître la puissance de la résurrection associée, la puissance qui est associée à sa résurrection. Tout ce que je désire, dit l'apôtre Paul, c'est connaître le Christ et la puissance de sa résurrection. Que veut-il dire par connaître le Christ ? Connaître le Christ. Quand on lit la parole de Dieu, on constate d'abord que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, une vraie relation entre Dieu et l'homme, une relation intime et personnelle, est tout à fait possible. Est tout à fait possible. Les croyants de l'ancienne alliance, on le voit quand on lit les textes, ne se soumettaient pas seulement à un code moral ou à une simple croyance, mais ils ont toujours perçu Dieu comme un être vivant avec qui ils pouvaient avoir une communion profonde et intime. Ils ont toujours perçu Dieu comme quelqu'un qui se révélait à eux, qui se manifestait jour après jour. Là, il suffit de voir tous les noms de l'Ancien Testament qu'on donne à Dieu, que le peuple d'Israël donne à Dieu, n'est-ce pas, selon la révélation de Dieu. Dieu s'est révélé à eux, Dieu leur parlait, Dieu les accompagnait dans leur cheminement de chaque jour, Dieu agissait dans leur vie. Ils pouvaient avoir une relation avec Dieu. Voyons par exemple ce que dit Dieu par la bouche du prophète Jérémie au chapitre 9, verset 23. Voici ce que déclare le Seigneur. Que l'homme sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que l'homme fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas d'être riche. Si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie plutôt d'avoir de l'intelligence et de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel qui agit avec bonté, justice et loyauté sur la terre, car c'est à de tels gens que je prends plaisir, dit l'Éternel. Que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de connaître le Seigneur, l'Éternel. La tendance aujourd'hui, c'est d'admirer plutôt les puissants, n'est-ce pas, ceux qui sont au sommet de l'échelle sociale, les intelligents, ceux qui ont beaucoup de connaissances, ceux qui ont des talents, n'est-ce pas, ou encore ceux qui possèdent une belle apparence et qui passent tout le temps à la télévision. Mais le Seigneur dit par la bouche du prophète que ce qui compte le plus pour lui, c'est que les gens lui connaissent l'Éternel, que les gens lui connaissent seul le vrai Dieu. Connaître Dieu est la chose la plus importante au monde. Plus importante que la puissance, plus importante que les richesses, plus importante que la renommée, la beauté ou la gloire. On lit dans l'évangile de Jean que Jésus, la nuit précédant sa mort, a prié pour ses disciples. C'est le fameux chapitre 17 de l'évangile de Jean. Une prière très très riche. Et en certains moments de sa prière, il dit « Or la vie éternelle ». C'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans sa première lettre, Jean affirme aussi, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le Dieu véritable. Et nous demeurons unis dans le Dieu véritable par son Fils Jésus-Christ, nous dit-il. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Celui qui ne connaît pas Dieu, celui qui ne connaît pas Jésus-Christ, ne possède pas la vraie vie. Il ne possède pas la vie éternelle, cette vie abondante que le Christ est venu nous donner. Et Jésus est venu sur la terre afin que nous puissions connaître Dieu. La Bible, du début à la fin, nous encourage à chercher à connaître Dieu et à connaître Jésus-Christ, qui est la plus grande révélation de Dieu sur la terre. Mais comment pouvons-nous le connaître? Nous avons la possibilité de connaître pas mal de choses qui se rapportent à lui. Déjà, si nous regardons la belle nature qui nous entoure, n'est-ce pas, et maintenant on est au printemps, c'est toujours une saison très très belle. Si nous regardons cette nature merveilleuse qui nous entoure, qui est, nous le croyons, l'œuvre de ses mains, en tout cas d'un être intelligent, nous pouvons constater que Dieu est un être intelligent, qu'il est puissant, qu'il est créateur. Nous pouvons aussi lire et étudier la Bible, la parole de Dieu, et voir comment, au travers des siècles, il s'est révélé aux hommes, comment il s'est révélé aux patriarches, par exemple, de l'Ancien Testament, et aux prophètes, comment il s'est révélé au peuple d'Israël. Nous pouvons encore être à l'écoute des témoignages de ce que les uns et les autres, même aujourd'hui, vivent avec le Seigneur, et constater l'impact de la présence divine dans nos vies, dans la vie de chacun. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage hier sur la 2 à propos des évangéliques. C'était la première fois où il y a eu, je pense, un reportage qui parle de nous sans arrière-pensée, même s'il y a bien sûr des choses négatives parmi nous. Hein, on n'est pas parfait, nous devons faire notre propre autocritique. Nous ne sommes qu'un visage du christianisme parmi d'autres. Mais le reportage hier, après les informations sur la 2, c'était un reportage formidable, des témoignages formidables. Et je pense que Dieu a sans doute utilisé ce reportage-là pour parler à des auditeurs. Et j'espère qu'il l'a fait. Parce que ce que nous voulons finalement, ce n'est pas que les gens deviennent des évangéliques comme nous, mais qu'ils deviennent des chrétiens, qu'ils croient à ce message de victoire, le message de la résurrection de Jésus-Christ. Et donc ces témoignages forts qui sont passés, ce sont des témoignages qui servent à quelque chose, qui peuvent, on a vu des gens transformés par la puissance de l'Évangile. L'Évangile transforme des vies. Ceci dit, frères et sœurs, nous savons bien qu'il y a une différence, n'est-ce pas, entre connaître une personne et connaître des faits concernant cette personne, des faits qui concernent cette personne. Pour connaître vraiment quelqu'un, il faut établir une relation avec lui. Il faut passer d'une connaissance intellectuelle, une connaissance même historique, n'est-ce pas, à une relation profonde avec cette personne. Il en est de même avec Dieu. Il en est de même avec Dieu. Il est plus important de connaître Dieu que de connaître seulement des faits concernant la personne divine. Ceci pour vous dire que nous devons finalement aller au-delà de ce que nous lisons, aller au-delà de ce que nous lisons et de ce que nous entendons. Nous devons établir et développer une relation intime et profonde avec le Seigneur. Et cela est possible. Toute la Bible nous le dit. Cela est possible. Pour cela, il est essentiel, nous dit la parole de Dieu, de placer notre foi et notre confiance en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Croire en lui, croire que l'événement que nous commémorons aujourd'hui, de manière particulière et chaque dimanche, puisque après la résurrection, les chrétiens ont décidé de se réunir le dimanche, croire que cet événement n'est pas une légende, mais un fait réel qui s'est passé. Lui demander de faire de nous de nouvelles créatures, comme dit la parole de Dieu, transformer nos vies. C'est donc important de prendre la décision de passer du temps avec lui dans la prière, dans l'adoration, dans la méditation de sa parole, dans la communion intime avec lui. Cela nous permet de partager non seulement nos joies, mais aussi nos souffrances, nos difficultés, parce que la vie chrétienne n'est pas toujours rose, hein, il n'y a pas d'illusion. La vie chrétienne est une vie que nous menons avec le Seigneur, mais au milieu aussi de difficultés, de souffrances. Hein. Nous n'échappons pas aux souffrances de ce monde. Mais une relation personnelle avec le Seigneur nous permet de confier tous les aspects de notre vie, même les souffrances. Nous partageons tout avec lui, nos vies, nos joies, nos peines, nos fardeaux. C'est en parlant avec Dieu que nous construisons finalement notre relation avec lui. Être capable tout simplement de lui faire confiance, de faire confiance à sa parole, de la mettre en pratique dans notre vie de chaque jour, marcher par la foi. Et ainsi nous sentirons sa présence dans nos vies, nous sentirons son soutien, nous sentirons sa protection, sa bénédiction, et nous constaterons que Jésus-Christ est vraiment vivant, qu'il est vraiment vivant. que Jésus-Christ n'est pas un souvenir du passé, mais qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, parce qu'il est présent dans nos vies. Connaître le Christ. La deuxième partie du désir de Paul, c'est de, je cite, « connaître la puissance de sa résurrection ». Connaître la puissance de sa résurrection. Cette phrase me ramène tout de suite à d'autres phrases utilisées dans les textes bibliques, par exemple celle que nous trouvons dans la lettre aux Romains où l'apôtre Paul dit que Jésus, par sa résurrection d'entre les morts, je cite, a été déclaré fils de Dieu avec puissance. Ces textes nous montrent que la résurrection de Jésus-Christ a manifesté de manière éclatante et puissante, n'est-ce pas, la vraie nature de Jésus-Christ. La vraie nature de Jésus-Christ. Sa qualité d'envoyé de Dieu parmi les hommes, sa qualité de fils de Dieu. Dans la lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul priait Dieu de révéler aux Éphésiens, je cite, l'infinie grandeur de sa puissance, qu'il met en œuvre en notre faveur à nous, qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, dit-il, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Voilà la puissance de la résurrection. Il y a effectivement, frères et sœurs, chers amis, une énorme puissance liée à la résurrection de Jésus-Christ. Une puissance divine que rien ne peut contenir, même pas la mort. Et tous les chrétiens, sans exception, possèdent cette puissance. Tous les chrétiens, en tout cas, ont accès à cette puissance incomparable, cette puissance de la résurrection de Jésus-Christ. C'est cette puissance qui opère dans la vie de chaque chrétien. C'est cette puissance qui opère dans la vie de chacun de nous. Et je pense que finalement, notre tâche à nous de chrétiens, c'est de laisser cette puissance agir dans nos vies, agir entièrement dans nos vies, se manifester avec puissance dans nos vies. La parole de Dieu nous dit dans quel domaine la puissance de la résurrection de Jésus-Christ se manifeste, dans quel domaine cette puissance agit. Elle agit dans le domaine de notre salut. D'ailleurs, l'apôtre Paul fait mention de cela dans ce texte lorsqu'il parle de la justice, de la justification, c'est le mot que l'apôtre Paul utilise. La résurrection de Jésus-Christ a la puissance de nous rendre justes devant Dieu, malgré nos péchés, malgré nos fautes, malgré le mal que nous commettons. C'est ce que l'apôtre Paul essaie de faire comprendre à certains chrétiens d'origine juive, n'est-ce pas, dans cette église à Philippe et dans d'autres églises, qui étaient encore très attachés à la loi de Moïse, surtout aux prescriptions de la loi, la circoncision et d'autres prescriptions. L'apôtre Paul sait que le péché exerce une influence sur l'homme, sur chacun de nous. Il sait que sans Dieu, l'homme ne peut rien faire contre le péché. L'homme est esclave du péché. Mais il sait aussi que Christ, par sa mort et par sa résurrection, nous libère de cette puissance du péché, nous libère de cet esclavage. C'est d'ailleurs ce qu'il écrit dans la lettre aux Romains lorsqu'il dit « Jésus a été livré à la mort à cause de nos péchés et il a été ramené à la vie pour nous rendre justes devant Dieu. » Pour nous rendre justes devant Dieu. Cela veut dire que lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, Dieu l'a chargé du péché du monde. Dieu l'a chargé des péchés de toute l'humanité. Et il a subi le châtiment, finalement, que nous devions subir. Il a subi le châtiment à notre place. C'est lui qui a subi le châtiment pour nos péchés. La justice de Dieu ne pouvait pas laisser les péchés du monde impunis, parce que Dieu est justice, il est juste, nous dit la parole de Dieu. Et c'est finalement Jésus-Christ qui s'est offert pour payer la facture à notre place, pour payer le prix de nos péchés, pour porter sur lui et subir à notre place le jugement et la condamnation. Et la preuve que son sacrifice a été suffisant pour effacer les transgressions du monde, pour effacer tous nos péchés aux yeux de Dieu. C'est le cachet que Dieu a mis sur cet acte, la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Voilà le cachet qui montre que ce que Jésus-Christ a fait est tout à fait valable. Nous sommes sauvés, nous sommes justifiés devant Dieu. Si son sacrifice n'avait pas été assez puissant pour annuler la punition, la condamnation qui revenait à chacun de nous pour nos péchés, Dieu ne l'aurait pas ressuscité. Ses ossements seraient probablement encore dans les collines de Jérusalem. Sa justice n'aurait pas été satisfaite et Dieu n'aurait pas ramené Jésus de la mort à la vie. Mais le fait qu'il soit revenu à la vie démontre une fois pour toutes que son sacrifice a satisfait pleinement la justice de Dieu et que cet acte, ce sacrifice sur la croix a été suffisant pour couvrir la punition qui nous attendait pour nos péchés. Alors c'est vrai que parfois le diable sème le doute dans nos esprits, n'est-ce pas ? Il nous dit parfois, mais ce que tu as fait autrefois, Dieu ne pourra pas te le pardonner. Ce n'est pas possible. Dieu ne pourra pas pardonner tout le mal que nous avons commis. Alors il nous suffit simplement de rappeler que Jésus est mort pour tous mes péchés. Pour tous mes péchés. Jésus-Christ a payé le prix de mes péchés. Et il est ressuscité des morts pour nous donner la vie, à nous aussi qui croyons en lui. Et parce que je crois à son sacrifice et que je crois en lui, je me souviens de cette parole biblique, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je suis pardonné, je suis justifié aux yeux de Dieu. Et cela grâce à la puissance de la résurrection. L'autre aspect, c'est que la résurrection a non seulement la puissance de nous rendre justes devant Dieu, mais elle nous donne aussi la force de vaincre le péché. Elle nous donne la force de vaincre le péché et de nous amener donc à ressembler à Jésus-Christ qui était l'homme parfait. La parole de Dieu dit qu'en recevant Jésus-Christ dans nos vies, nous recevons une nouvelle nature. L'Esprit de Dieu vient habiter en nous et le but de cette nouvelle nature et de cette nouvelle vie en Christ, c'est de nous amener finalement à ressembler à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec cette nature, cette nouvelle nature, que nous recevons la capacité finalement de résister aux tentations nombreuses, n'est-ce pas, qui se placent devant nous chaque jour. Le Seigneur nous donne la puissance même de briser nos vieilles habitudes du passé, ces habitudes qui nous amenaient souvent à commettre le péché devant le Seigneur. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul avait ce désir que tous connaissent la puissance liée à la résurrection de Jésus-Christ. Cette puissance qui est capable de nous rendre semblables à Jésus-Christ. C'est d'ailleurs pour cela qu'il exhorte les Éphésiens à se revêtir de la nouvelle nature que Dieu donne. Revêtez-vous de la nouvelle nature qui est créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. Dans un autre texte, il nous est dit que nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà ce que la puissance de la résurrection de Jésus-Christ est capable de faire en nous, est capable de faire dans nos vies. Elle est capable d'effacer de nos vies toutes ces vieilles habitudes, ces traits de caractère non conformes à ce que Dieu attend de chacun de nous. C'est elle qui est capable de mettre en nous le caractère de Jésus-Christ, ce caractère qu'il a démontré pendant son ministère sur la terre. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Dieu veut s'occuper de chacune de ces choses afin de nous amener à ressembler à Jésus-Christ. Et seule la puissance de la résurrection peut réaliser cela en nous. Donc à nous finalement de prendre conscience de cette puissance et de la laisser agir chaque jour dans nos vies. Car comme dit l'apôtre Paul dans cette même lettre aux Philippiens, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Et c'est le Seigneur qui nous fortifie. En Jésus-Christ, nous sommes forts. En lui, nous ne sommes plus esclaves du péché, car il nous donne cette puissance de vaincre le péché. La puissance de la résurrection ne se limite pas seulement au pardon des péchés et à la victoire sur le péché. Elle a aussi la puissance de faire de nous des représentants de Dieu sur la terre. On peut utiliser le mot de l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, des ambassadeurs pour Dieu dans ce monde, pour changer le monde, pour changer le monde. Que serait ce monde sans l'Église de Jésus-Christ ? Ambassadeur de Dieu au milieu des hommes ici-bas. Pour partager et manifester ce message de victoire, message de la résurrection, ce message d'amour de Dieu aux hommes. Jésus a dit à ses disciples, et il nous dit à nous aujourd'hui, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Et l'apôtre Paul ajoute, Dieu nous a chargé d'annoncer cette œuvre de réconciliation, cette œuvre de réconciliation entre Dieu et les hommes. Il nous appelle donc à remplir la fonction d'ambassadeur pour Christ. Quel privilège, n'est-ce pas, d'être les ambassadeurs de Christ dans notre société et dans ce monde. Dieu pourrait agir, et il agit d'ailleurs dans certaines circonstances, n'est-ce pas, en s'adressant directement à telle ou telle personne, et à chaque personne. Mais la Bible nous dit que dans sa sagesse, il nous a choisis, nous, ses disciples, les chrétiens, pour être des ambassadeurs, malgré nos faiblesses, malgré nos limites. Je terminerai en disant que la puissance de la résurrection de Jésus-Christ est celle aussi qui se manifeste dans nos corps mortels, dans cette enveloppe que nous avons. Car c'est grâce à elle que nous survivrons à notre mort physique. Nous savons tous que nous allons mourir un jour, n'est-ce pas ? Notre corps, un jour, va mourir. Et la parole de Dieu nous parle de la résurrection finale. Notre résurrection, à nous, est liée directement à la résurrection de Jésus-Christ. Parce que c'est grâce à elle que nous avons les portes du ciel ouvertes. Nous avons l'éternité ouverte à chacun de nous. La plus grande affirmation de Jésus est celle-ci. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, même si ce corps un jour va mourir. Mais quelle affirmation ! Quelle affirmation ! Il avait l'autorité de faire cette affirmation parce qu'il l'a démontré en ressuscitant des morts. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait s'exclamer, « Mort, où est ta victoire ? Mort, où est ton pouvoir de tuer ? Loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est aussi grâce à la puissance de la résurrection que l'apôtre Pierre pouvait dire, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Voilà la grande ambition de l'apôtre Paul, la grande ambition spirituelle pour lui et pour chacun de nous. Voilà pourquoi il avait le désir que tous connaissent le Christ et la puissance de sa résurrection. Voilà pourquoi la résurrection est une vérité centrale du christianisme, la base de notre foi, de la foi chrétienne. Voilà pourquoi la résurrection de Jésus-Christ doit être une réalité dans notre vie de chaque jour, si nous voulons être rendus justes devant Dieu, vaincre le péché, ressembler à Jésus-Christ. avoir une relation profonde et intime avec lui, être ses ambassadeurs dans ce monde et voir cette puissance agir en nous et au milieu de nous et dans le monde. Plus que toute autre chose, l'apôtre Paul voulait connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Et nous, que voulons-nous ? Mettre de côté ce message de la résurrection de l'Évangile ? Que voulons-nous ? Chercher le maximum d'argent, de gloire, de renommée, de puissance dans ce monde ? On sait que toutes ces choses sont vaines et éphémères. On peut les avoir, mais elles se terminent, elles restent ici-bas, n'est-ce pas? Elles restent ici-bas. Elles ne rassasient pas le vide de notre âme. Elles ne nous préparent pas pour l'éternité. Dieu nous appelle à quelque chose de meilleur. Il nous appelle à puiser à la source de l'éternité, à la source de toute joie, de tout bonheur, à la source de toute vraie satisfaction, à la source de la vie. Jésus-Christ est la vie. Connaître Jésus-Christ et la puissance de sa résurrection, voilà la base de tout. Voilà ce qui est essentiel dans la vie.